Au quotidien, avec Hélène Denis.
Bonjour, bonjour et bon jeudi 6 novembre 2025. Pas chaud ce matin, les gants sont les bienvenus. Mathieu, allô?
Bonjour Hélène.
Avez-vous sorti votre bougrine?
Ma bougrine? Oh, j'aime bien ce mot-là. Non, j'ai sorti mon masque de ski. Parce qu'en vélo, le matin quand j'arrive, il fait fret pour la pupille.
Oui. Un masque de ski.
Des lunettes de ski. Là.
Oui, oui. Donc, ça vous protège des grands vents.
Oui.
Et ça vous empêche de pleurer.
Exactement.
Oui.
Parce que les gens m'arrêtaient quand je roulais en vélo, ils pensaient que j'étais triste. J'avais beau leur dire, non, c'est le vent, mais ils ne me croyaient pas.
Et puis là, ils pensent quoi?
Ils pensent que j'ai l'air de fou.
La bougrine, pour ceux et celles qui se demandent, mais qu'est-ce que c'est?
C'est joli, en tout cas.
Oui, c'est un manteau d'hiver.
Ah, bougrine.
Un gros manteau chaud, oui.
Ben merci.
Ben ça me fait très plaisir. Et puis, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on aura au menu? Il y aura de la visite en studio. Il s'appelle Sylvain Cornuau. Il est co-directeur général et artistique d'un tout nouveau festival international jeune public pour les 3 à 17 ans et aussi pour toute la famille, qui s'intitule La Mèche courte. Je trouve que c'est un beau mot pour nommer ce festival. Alors, nous aurons cette visite vers la fin de l'émission. Également au menu, les parasports en compagnie de Dominique Tremblay de retour et on en est bien heureux. Il y aura aussi Yvan Deslauriers, Yvan qui a lu un texte du journaliste sportif Kevin Breton qui raconte sa virée à vélo électrique adaptée dans des sentiers de Bromont. Et puis Yvan va partager ce texte avec nous vers 10 heures et quelques. Et elle est au bout du fil dans les cantons de l'Est. Je ne sais pas s'il fait froid, s'il y a de la neige. Monique Kerouac, bonjour.
Bonjour Hélène. Non, il n'y a pas de neige.
Pas de neige? Non,
non,
on en prévoit.
Froid, il fait froid.
Oui, oui.
C'est un ciel un peu bigarré, je dirais, Hélène.
Ah oui?
Oui, tout à l'heure, le ciel était bleu, le soleil était là. Là, ben, ça se couvre, mais il y a des petites, je vois, des petites percées de ciel bleu. Alors, c'est n'importe quoi.
N'importe quoi. Et puis, novembre, je ne sais pas si c'est n'importe quoi, mais je sais que c'est un mois qui est mal aimé.
Ah, mon Dieu. On a changé l'heure.
Oui.
Les jours raccourcissent. La grisaille prédomine. Le soleil se couche, ben, quand il y en a, hein, quand on le voit se coucher, il se couche à peu près autour de 17 heures.
Hier, je suis sortie de la station à 15h30, il faisait noir.
Oh, ben, ouais, surtout que... Est-ce qu'il pleuvait aussi, Hélène?
Oui, il pleuvait, il y avait de la petite pluie, là, un petit crachant.
Oui, alors c'est presque normal d'éprouver un peu plus de fatigue ou peut-être d'avoir moins d'énergie, peut-être qu'on fait moins d'activités physiques et puis bien d'autres activités. Puis en plus, on pourrait se sentir déprimé. Oh là là, c'est lourd le mois de novembre. Alors la presse plus s'est intéressée à ce mois de novembre et a discuté avec des chercheurs, des professionnels pour identifier diverses astuces en fait. Pour faire face, et je cite dans le titre, au marasme de novembre.
Ah oui, marasme, un mot grave. Et oui. J'ai parlé du verbe pleuvatait, c'est moi qui l'ai inventé, parce qu'il faudrait dire pleuvassait. Il pleuvassait, pleuvoir légèrement, bruiner. Pleuvassait, évidemment, à l'imparfait. Bon, alors Monique, merci beaucoup d'être là, puis on va retrouver Yvan un peu plus tard au cours de cette émission. Et on écoute maintenant Velo Velour, quand je pleure, je suis content.
Même si ces choses du passé, ça ne cesse de me hanter. Ah, ah, je n'essaie pas de changer, j'arrête pas d'abandonner. J'ai l'impression de vivre à moitié. Oh, sort plus de mon corps. Je ne peux plus bouger. Sur moi, tous les yeux sont rivés. Ça m'empêche de danser. Et je suis content quand je pleure. Quand je me vais de le cœur. Après, je me sens
Velours, velours, quand je pleure, je suis content.
À la une de la presse plus, cellulaire au travail, distrait et dangereux dossier incontournable signé Marie-Ève Moras, Chloé Bourquin, Daphné Cameron, aussi Marie-Ève Cousineau, ainsi que Mélanie Marquis. Distrait et dangereux, des travailleurs rivés sur leur cellulaire. Christian, un prénom fictif, travaille dans une centrale du 911 depuis une vingtaine d'années. Lorsqu'il reçoit un appel qui nécessite une intervention des services d'urgence, il remplit une carte d'appel que reçoit le répartiteur. Or, il arrive que cette personne soit occupée ailleurs. Des fois, je dois me lever pour demander au répartiteur s'il a vu la carte d'appel. Je le vois scroller, il est parti dans son TikTok. Christian le concède, les heures sont souvent longues quand on travaille de nuit, mais 2-3 minutes d'inattention peuvent tout changer. La presse a demandé à ses lecteurs dans quelle mesure le téléphone nuit à la pratique de certains corps de métier. Une Montréalaise a témoigné que l'été dernier, elle a vu des sauveteurs à la piscine de son quartier consulter leur cellulaire à plusieurs reprises. La semaine suivante, malgré le fait qu'elle avait informé la superviseure, les sauveteurs consultaient toujours leur cellulaire caché dans leur casquette. « Je ne laisse jamais mes enfants aller à la piscine seuls, même s'ils sont de bons nageurs et qu'ils ont l'âge d'y aller », ajoute-t-elle. Une enseignante en technique d'éducation à l'enfance s'inquiète elle aussi pour la sécurité des enfants lors de son récent passage dans une garderie privée où elle devait superviser une étudiante. Elle raconte avoir eu la mauvaise surprise de voir une éducatrice scotchée à son téléphone pendant que tourbillonnaient les enfants autour d'elle. Un lecteur qui a demandé à conserver l'anonymat relate quant à lui que pendant qu'il se faisait faire un plombage, son dentiste a consulté son téléphone d'une main alors qu'il avait l'autre main dans sa bouche. Bien que les données ne soient encore que partielles, l'année 2025 s'annonce déjà pour connaître un record de plaintes pour des conducteurs ayant utilisé leur cellulaire au volant dans les autobus de la STM. À la mi-octobre, la société publique en avait déjà enregistré 105 contre une moyenne de 76 plaintes par an dans les 5 années précédentes. Selon l'Institut de la statistique du Québec en 2020, 47 % des Québécois de plus de 15 ans consultaient leur téléphone intelligent toutes les 30 minutes. Dans son laboratoire Tech 3 Lab, Pierre Majoric-Léger étudie l'interaction entre les humains et la technologie dans un contexte d'affaires. Le professeur de HEC Montréal s'intéresse plus particulièrement au phénomène du multitâche lorsqu'une personne est en mouvement. Il y a amplement d'études en psychologie montrant que lorsque l'on fait du multitâche, on dégrade la performance des deux tâches, la tâche principale et la tâche secondaire. mais c'est encore pire lorsqu'on marche. Ça s'appelle l'inertie attentionnelle, dit M. Léger. Le professeur a notamment réalisé des expériences avec des sujets en train d'utiliser leur téléphone sur un tapis roulant. Son équipe a aussi suivi des piétons dans le Vieux-Montréal qui textaient ou qui jouaient à des jeux et a pu déterminer combien de temps il faut avant que le cerveau puisse changer de tâche après s'être déconnecté du téléphone. Les 600 premières millisecondes après que vous sortez de votre téléphone, vous êtes toujours dans le texto que vous avez envoyé et dans l'échange que vous avez eu, explique-t-il. Pour les gens pratiquant des métiers plus risqués, comme les opérateurs de machinerie lourde ou les conducteurs de camions, l'usage de l'écran met la sécurité des autres en danger. En une fraction de seconde, tout peut basculer, littéralement. Un fléau aussi dans le réseau de la santé, les yeux rivés sur son cellulaire, l'auxiliaire de service dépêché par le CLSC s'avance dans l'appartement de l'homme de 91 ans, atteint d'Alzheimer. Pendant 30 secondes, elle fixe l'écran de son téléphone sans même lui parler. Puis elle lui demande où sont ses médicaments. Elle les dépose sur la table et retourne à son cellulaire. En regardant cette vidéo captée par une caméra de surveillance, Manon Bouchard ressent de la colère. Cet homme, c'est son père. Et tous les problèmes dans le milieu de la santé, il n'y a pas seulement que dans ce CLSC-là. On évoque le CHUM et aussi l'hôpital Sacré-Cœur. C'est bénéfique même pour nous. Bien que les enseignants soient exemptés de la directive ministérielle sur l'interdiction du cellulaire à l'école, ils sont tout de même invités à donner l'exemple et certains se font un devoir de s'imposer un sevrage technologique dont les résultats sont positifs. Les élèves se parlent plus entre eux. Et là, nous aussi, on se parle plus parce qu'on fait plus attention, constate Justine, prénom fictif, qui enseigne l'histoire dans une école secondaire de Joliette. Ce n'est pas d'hier que les enseignants utilisent leur cellulaire avec parcimonie, souligne-t-elle. Cependant, le personnel scolaire a bien pris acte du tour de vis entré en vigueur à la rentrée des classes. On se met nous-mêmes des barrières. Ce n'est pas un problème, c'est simplement qu'il faut réapprendre d'autres réflexes et je dirais que c'est bénéfique même pour nous, car on a tous développé une forme de dépendance. Alors, c'est un exemple à suivre, selon moi. Et puis, à la une du Journal de Montréal, c'était dans la presse plus, là, ce gros dossier qui est absolument important à lire, cellulaire au travail. Maintenant, la une du Journal de Montréal, deux fois plus long aux heures de pointe, circulation pour rentrer à Montréal à cause de la grève du transport en commun, casse-tête pour plusieurs personnes. C'est dégueulasse, je dois me promener partout sur l'île pour le travail, donc je peux vraiment constater l'impact de la grève de la STM. Depuis lundi, c'est vraiment compliqué, je perds beaucoup de temps dans le trafic, déplore Dominique Robert, qui est un intervenant pour la Direction de la protection de la jeunesse et père de deux enfants, qui doit jongler avec son horaire à cause de la grève. Selon Martin Chamberlain, directeur des opérations de groupe Signature sur le Saint-Laurent, qui suit l'état de la circulation sur les ponts de Montréal, la situation pourrait aller en empirant. Et puis à la une du Devoir, quand l'amour est un obstacle à la maternité, c'est Florence Morin-Martel et Amélie Pineda qui signent le texte. Au Québec, des femmes prêtes à devenir mères seules découvrent qu'en tombant amoureuses, elles perdent le remboursement de leur traitement de fertilité. Questionnées sur la confusion créée par cette règle, Québec envisage désormais de clarifier ce critère d'admissibilité. Une photo de Soraya Martinez Ferrada, reçue par Valérie Plante, la mairesse Valérie Plante, qui quittera officiellement ses fonctions le 13 novembre, a accueilli sa successeur, Soraya Martinez Ferrada, à l'hôtel de ville mercredi. Valérie Plante dit laisser la maison en ordre pour la nouvelle mairesse.
We'll be right back.
La chanson magnifique de Mike Clay.
Oui, heureusement qu'il y a la musique hein, pour mettre un peu de lumière et de pep dans cette journée et dans ce mois de novembre que plusieurs trouvent extrêmement triste. Même, je pense que Monique, il y avait le chroniqueur télévision Hugo Dumas qui, lui, aimerait sauter carrément novembre, l'éliminer du calendrier.
Oui.
Êtes-vous d'accord avec ça?
Une bonne idée, mais je trouve que la musique que Mathieu ou vous, Hélène, avez choisie nous aide certainement à traverser ce mois.
Et moi, je ne sais pas, je pense que je suis dans le club de Louis-José Houd qui, lui, préfère novembre. C'était d'ailleurs le titre d'un de ses spectacles. Oui. Je ne préfère pas nécessairement novembre, mais j'aime ce mois. Ce mois qui nous permet de nous recueillir, on est chez soi, on allume des chandelles et c'est le calme avant la grosse tempête de Noël. Et ce qui m'agresse le plus, moi, dans le mois de novembre, ce sont les publicités qui nous mettent de la pression là, pour acheter les cadeaux de Noël. Là.
Ah oui, c'est vrai.
Ça me déprime.
Oui, c'est ça. Oui, bon. Eh bien, il est bel et bien installé ce mois de novembre, Hélène. On le sent très bien dans notre corps, en tout cas, parce qu'il faut se vêtir, comme vous disiez, peut-être d'une bougrine. Mais, et en effet, comme vous le dites, pour certains, cette période de l'année, c'est associé au goût de relaxer, bien calé au fond de son sofa, de faire une belle lecture. Mais la baisse de luminosité a un impact pour plusieurs personnes. Quand la luminosité diminue, le corps sécrète de la mélatonine. Qu'est-ce que c'est? C'est l'hormone du sommeil sur une plus longue période. C'est ce que nous explique le psychiatre André Do de l'Institut universitaire en santé mentale de Montréal. Ça amène alors un état de somnolence, d'apathie. Le corps aussi sécrète moins de sérotonine, ce neurotransmetteur important dans la régulation de l'humeur. Vous rappelez, Hélène, qu'on le surnomme couramment l'hormone du bonheur. En général, les gens font aussi moins d'activités physiques pendant la saison froide, ben, je dirais surtout entre l'été et l'hiver, là, ou plus précisément peut-être en novembre, et ce qui peut également jouer sur le niveau d'énergie. Ils dorment en moyenne 15 à 20 minutes de plus. Également, Alexandre Nadeau, ergothérapeute, souligne que nous avons tous une marge de manœuvre entre nos capacités, c'est-à-dire ce qu'on est capable de fournir tant sur les plans physiques, cognitifs, émotionnels, et nos exigences, soit au travail et à la maison. L'épuisement professionnel survient quand les exigences dépassent les capacités. Donc, notre marge de manœuvre, en général, est plus petite à ce temps-ci de l'année. Il faut donc être très vigilant. S'il y a des raisons de se sentir un peu plus fatigué pendant la saison froide, la fatigue peut évidemment nous toucher à longueur d'année. C'est l'un des motifs de consultation les plus fréquents en médecine générale. Elle est invoquée dans 5 à 10 % des consultations selon les études. Ben, je peux en témoigner, Hélène, c'est me sentant moins énergique, plus fatiguée, que j'ai consulté et que j'ai appris que j'avais ce diagnostic de la maladie de Waldenstrom.
Oui, cette maladie méconnue, est-ce que vous voulez nous en dire un peu plus?
Ben, en fait, c'est un cancer rare du sang qui touche 5 personnes sur 1 million.
Imaginez.
Eh bien oui, j'ai gagné le gros lot, mais ce n'est pas fatal parce que les lymphomes qui sont affectés sont indolents, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas agressifs.
Bon, une nouvelle rassurante dans cette mauvaise nouvelle, finalement.
Exactement. Ouais. Alors, revenons à la fatigue. Dans la plupart des cas, la fatigue est dite primaire, c'est-à-dire qu'elle n'est pas causée par une maladie sous-jacente. Elle se gère alors principalement par des changements dans les habitudes de vie. Alors, par rapport relativement à ces habitudes de vie, on nous dit qu'il faut être attentif au cercle vicieux. On s'explique. La fatigue s'inscrit souvent dans un cercle vicieux. C'est ce que constate Jean-Philippe Chaput, kinésiologue, chercheur et professeur à l'Université d'Ottawa. On se sent fatigué, alors on fait moins d'activité. On reste assis de longues heures à travailler, sans prendre de pause, souvent. Le soir, on prend un verre d'alcool, on regarde nos écrans jusqu'à tard, on dort plus ou moins bien, et ainsi de suite. Et tout est interrelié. Ça devient alors facile de manquer d'énergie, de motivation, même d'être déprimé. La base de la santé physique et mentale, on se le rappelle, bien manger, bien dormir, bouger et gérer son stress. Le réflexe naturel, quand on se sent fatigué, ben, c'est de vouloir se reposer. Mais on sait qu'être inactif peut contribuer à augmenter la fatigue. Ainsi, plusieurs études ont démontré que l'activité physique permet d'augmenter les niveaux d'énergie perçus tant chez la population générale que chez ceux atteints de problèmes chroniques. L'exercice est aussi associé à un meilleur sommeil. On a également tendance à sous-estimer les bienfaits associés au simple fait de prendre des pauses pendant la journée. Le mieux, aller 15 minutes à l'extérieur pour bouger un peu, prendre de l'air, 3 points de suspension et du soleil. Bon, j'ajouterais quand il peut ou il veut vraiment rayonner. Parlons maintenant de la luminothérapie et des écrans. La luminothérapie, c'est un traitement particulièrement intéressant chez les personnes souffrant de dépression saisonnière, selon le psychiatre André Do, qui s'y intéresse dans ses recherches. La luminothérapie rééquilibre le rythme circadien et réduit la sécrétion de mélatonine, ce qui amène au stade d'éveil, donc plus d'énergie. Ça vient aussi augmenter la sécrétion de sérotonine.
L'hormone du bonheur?
Ben oui, alors on est de meilleure humeur. Des études montrent que la luminothérapie peut aussi être un traitement efficace contre la dépression non saisonnière, surtout lorsqu'elle est combinée avec une médication. Le soleil se couche tôt, de novembre à janvier, et l'envie de relaxer devant la télé est parfois irrésistible, ou à lire un bon livre, hein, ce qui est tout à fait correct. C'est normal que le type d'activité fluctue d'une saison à l'autre. Cependant, tout est une question d'équilibre. Ah, ce mot, l'équilibre, l'harmonie.
On y revient toujours.
La consommation récréative d'écran devient surtout problématique lorsqu'elle empiète sur d'autres comportements salutaires. Mieux vaut également fermer les écrans, retenons ceci, de 30 minutes à 1 heure avant d'aller au lit. La lumière bleue interfère avec l'endormissement. Savoir organiser, c'est une autre clé pour économiser son énergie. Il ne s'agit pas du tout de tout minuter, là, planifier, mais de mettre quelques blocs à l'horaire pour économiser du temps. On nous donne comme exemple l'épicerie sur le chemin du retour du travail, le ménage de la salle de bain le mardi soir. Si on garde toutes les tâches pour le dimanche matin, ben, ça peut devenir très lourd et très déprimant aussi, ouais. J'ajouterais.
On va avoir le goût de retourner au lit.
Oui, c'est ça. Dernier point, mais non le moindre, l'alimentation, Hélène. D'abord, la répartition des repas dans la journée. Si les repas ne sont pas rassasiants, c'est normal d'avoir des petites baisses d'énergie et des fringales tout au long de la journée. Donc, le déjeuner est souvent le repas le plus déséquilibré, souvent ignoré, ou alors réduit à une forte dose de sucre. Parce que si on mange du pain blanc avec de la confiture et un verre de jus d'orange, ben finalement, on ingurgite seulement du sucre. Si consommé sans fibres, sans protéines et sans gras, ben les sucres passent très rapidement dans le sang. Le corps sécrète alors beaucoup d'insuline, ce qui nous mène à une chute excessive du taux de sucre et à des coups de fatigue. D'autres conseils en rafale pour terminer, limiter le café et les boissons énergisantes, les repas très copieux et l'alcool. Bien s'hydrater et manger une variété d'aliments frais pour maintenir un microbiote intestinal diversifié. Il faut aussi veiller à consommer suffisamment de fer, présent dans la viande, les poissons et les œufs, mais aussi dans plusieurs aliments végétaux. Alors, espérant, Hélène, que ces conseils nous donneront la possibilité de garder le moral.
C'est sûr. Catherine Enfield qui signe ce texte des pistes pour faire face au marasme de novembre. Bon choix, Monique. Je me demandais, les capsules de sérotonine, est-ce que ça existe?
Ah, je pense pas. Non. J'ai jamais entendu parler de ça, Hélène.
Parce que je sais qu'il y a des capsules de mélatonine.
Ah oui, ça existe oui, pour mieux dormir.
Oui. Mais moi, j'en veux qu'ils me donnent le bonheur.
Ah oui, la joie. Je suis en train de lire d'ailleurs Architecture de la joie.
Oh, quel beau titre! Est-ce que c'est intéressant?
Oui, c'est une correspondance entre Anaïs Barbeau-Lavallée et Steve Gagnon.
C'est vrai, je me souvenais plus de ce titre-là. Et je l'associe maintenant à ces deux auteurs qui sont aussi des gens associés au théâtre, au cinéma et à la littérature. Merci, Monique. Oui. On se retrouve à 10h et des poussières. Mais à 10h, on a une chanson pour vous. Et puis, ce sera la chronique d'Yvan Deslauriers. Restez là.
Vous écoutez Au quotidien avec Hélène Denis.
Respirer l'air, une chanson de Marie-Pierre Arthur.
Merci beaucoup. Et on retrouve avec grand plaisir Yvan Deslauriers, qui était aux abonnés absents depuis quelques semaines parce qu'il était occupé ailleurs, aux élections municipales. Bonjour, Yvan.
Bonjour, Hélène. Ça me fait vraiment plaisir d'être avec vous.
Ça s'est bien passé pour vous, les élections?
Oui, très, très bien. Très bien. On s'est couché. On se couche jamais le même jour où on se lève, une journée d'élection.
Ah oui.
Mais ça s'est très bien passé, oui. Avec l'expérience, on connaît quel fil tirer, alors ça va bien.
Oui, c'est pas votre premier barbecue.
Non, même au mois de novembre, non, c'est pas mon premier barbecue.
Ni votre premier rodéo. Alors, Yvan, aujourd'hui, vous allez partager avec nous un texte de notre ancien collègue, qui est maintenant journaliste à Radio-Canada, journaliste sportif, qui vit en situation de handicap. Il s'appelle Kevin Breton.
Oui. Et j'ai une admiration sans borne pour Kevin parce que je trouve que c'est un bon analyste, c'est un bon animateur sportif.
Il
connaît bien ses affaires. Oui. Et je veux dire, son handicap, c'est tout à fait accessoire, vraiment. Je le sais parce que je l'ai côtoyé à quelques reprises, mais pas le savoir, je ne le saurais pas du tout. Là. Mm-hmm. Il est vraiment, vraiment toujours très bien préparé. Alors, ça m'a fait plaisir de voir cet article qui est paru dans le site de Radio-Canada le 24 octobre, où il raconte une virée à vélo. Et je peux vous dire, il y a un petit film dedans. Je peux vous dire que c'est probablement pas son activité favorite.
Ah non?
Il n'a pas l'air très sûr de son affaire.
Mais il l'a fait.
Oui, il l'a fait. Puis comme on le connaît, il a toujours le sourire aux lèvres. Et un peu d'autodérision aussi. Donc, il raconte que sa dernière expérience à vélo remontait à l'adolescence. Il y a 25 ans de cela.
Oh.
Ça m'a surpris un peu le chiffre. Mais sur une petite bicyclette stabilisée par deux petites roues arrière, celles que les enfants utilisent quand ils apprennent à donner leur premier coup de pédale. Mais moi, en fait lui, à cause de mon manque d'équilibre, je n'ai jamais vraiment pu m'en départir. En grandissant, elle ne pouvait plus supporter mon poids et se mettait à crochir, compromettant ainsi la sécurité de mes balades sur la pourtant bien plate 10e avenue à Saint-Georges-de-Beauce. Cette petite bicyclette a été remisée à la fin d'un automne quelconque et n'a jamais revu la lumière du jour depuis. Je suis remonté en selle pour la première fois la semaine dernière, bien loin du bitume et des bungalows beaucerons, et sur un tout autre engin, un puissant vélo de montagne électrique. Et d'après le petit vidéo, j'ai vu qu'il n'y avait pas nécessairement besoin de pédaler. Je pense que l'électricité faisait déjà pas mal de travail. Pas de danger que les roues crochissent ici avec trois pneus surdimensionnés. Il y a comme deux pneus en avant et un gros pneu en arrière.
Comme un tricycle.
Oui. Un tricycle inversé. Les petites roues, les deux roues sont en avant. Le paysage était aussi fort différent avec des racines, du gravier, des archipels de pierres concassées et des arbres dans leurs couleurs d'automne en forme de haies d'honneur. Les obstacles, je connais ça. Généralement, ils prennent la forme de fentes dans le trottoir l'été, de congères l'hiver ou de pavés mal alignés au printemps. Des obstacles que je contourne ou que j'escamote en basculant mon fauteuil roulant vers l'arrière. Lui, il y a un fauteuil roulant motorisé avec quatre roues, il me semble, de mémoire. Donc, il met son poids vers l'arrière et très prudemment en maintenant son équilibre sur les routes derrière pour éviter que les petites à l'avant piquent et me catapulte vers l'avant, un classique. Sauf que là, en cette chaude journée d'octobre, ce sont plutôt des « drops » ou des « features », des mots que je ne connaissais ni d'Ève ni d'Adam, mais qui sont bien inscrits dans le vocabulaire des amateurs de vélos de montagne qui se dressent devant moi. Il s'agit de sections qui demandent un peu d'adresse avec des sauts, des passages exigus et des courbes inclinées. Et l'astuce pour les traverser va à l'encontre de ma philosophie habituelle. Faut pas que tu hésites, il faut que tu fonces, il faut que tu te laisses porter par ton mouvement. Si tu freines, c'est là que tu perds ton momentum, dit avec sagesse Martin Speaker, qui est bénévole depuis 3 ans à la Fondation des sports adaptés. Et par un hasard, je fais un aparté, je connais Martin Speaker parce qu'on a tous les deux été bénévole à Opération Père Noël en même temps.
Opération Père Noël?
Oui.
Ça se passe dans le temps des fêtes, j'imagine?
C'est commencé, là. Ils sont en train de travailler là-dessus, là, je pense. Mais je pourrais vous en parler plus en détail une autre fois. Alors, Martin a l'habitude d'accompagner des néophytes comme moi qui peuvent tester pour la première fois le vélo de montagne grâce à la Fondation des sports adaptés. Celle-ci s'est procurée, il y a 4 ans, 2 appareils Reach, comme celui que je chevauche. L'objectif est de permettre à des personnes handicapées de sillonner les pistes carotteuses du Parc des Sommets à Bromont. Cet après-midi, Martin joue le rôle d'un druide, me guidant à travers la forêt. Un druide mécanicien, en quelque sorte, parce que des ajustements mécaniques s'imposent avant même d'entamer l'aventure. Le Reach s'ajuste de façon à accueillir pas mal n'importe quelle personne handicapée, quelles que soient ses limitations ou son gabarit. Mais moi, de petite taille, il faut, en guillemets, patenter longtemps pour trouver les bons réglages, de façon à ce que je puisse accéder au guidon sur lequel se trouvent freins et accélérateurs, tout en permettant un positionnement adéquat des jambes et du tronc. Et là, dans l'article, on le voit tout sourire, assis dans son vélo, qui teste l'appareil Reach. On y arrive après de longues minutes. J'écris « on », mais c'était juste Martin qui travaillait sur la bête. D'une valeur d'environ 30 000 $. La Fondation des sports adaptés a profité d'une subvention pour acheter ces 2 vélos de fabrication canadienne. On a des gens qui viennent 6 ou 7 fois par année, d'autres viennent juste une fois. On a appris avec le temps à ajuster pour chacun pour que ce soit le plus sécuritaire possible et le plus confortable possible, indique toujours Martin. Avec ma physionomie, il est difficile de vraiment trouver un positionnement tout à fait ergonomique. Si on recule trop le guidon, on risque de frotter un peu sur la roue. Si on met trop de coussins sur mon dossier, je me retrouve les fesses dans le vide. En avançant le siège, il faut une rallonge pour rejoindre les ceintures et bien m'attacher. Comme mes jambes sont courtes, mes appuis au marchepied ne sont pas très solides et je m'enfonce souvent au fil des chocs. Il faut parfois arrêter pour me rehausser. Mais ça fonctionne. Je roule à plus de 30 km à l'heure si je veux. Mais je ne veux pas.
On le comprend.
On le comprend très bien. Je ne roule pas très vite, mais ce sont des sensations fortes quand même. Il faut une confiance absolue pour traverser les pierres, alors qu'en fauteuil roulant, avec des roues de 8 pouces de diamètre, des pédaliers suffit à me faire basculer vers l'avant. Surtout en étant très bas, au niveau du sol, il est difficile d'anticiper de loin les obstacles. Ce n'est pas naturel, mais on y prend goût. Et dans les virages, c'est comme en Formule 1, explique Martin, alors qu'il ouvre le chemin. Il faut trouver la bonne ligne. Je le suis à la trace, le plus possible, et je comprends vite le sens de ses conseils quand je dévie une première fois et que je me retrouve sur le côté. Mm. La Fondation des sports adaptés fournit gants et casques en passant. D'ailleurs, on le voit qu'il a chuté. Il a juste comme versé sur le côté.
Oui, oui.
Et dans la petite vidéo, on voit que tout est correct et il dit tout de suite que tout va bien. Mais ça prend quand même 2 personnes pour leur mettre sur ses roues. Leçon apprise. Le trajet se poursuit dans la K7, c'est le sentier où il était, jusqu'au parc équestre où on rencontre une autre pratiquante qui voulait tester le Reach avant un séjour en Alberta où le vélo de montagne serait aussi au rendez-vous dans de plus hautes montagnes. L'aventure s'arrête avant un détour sur la cassonade après 1 heure car le positionnement commence à être un peu inconfortable. On s'adapte à chaque participant, indique Martin. On a souvent des pauses, des participants qui peuvent marcher veulent aussi parfois juste sortir, se mettre debout quelques minutes avant de repartir.
La cassonade, Yvan, c'est un sentier?
Oui, oui, okay. Excusez, oui. Oui, c'est un sentier. Ma passion, c'est le plein air. J'aime ça jouer dehors, c'est Martin qui parle. C'est ça que j'aime, aider les gens à jouer dehors. On a eu beaucoup de plaisir. De retour au pavillon d'accueil, Francis Brunel me confie que je ne suis pas le seul. L'activité attire autant de sportifs aguerris que des curieux. On a 2 clientèles, je dirais. Ceux un peu plus casse-cou, qui aiment les défis, et d'autres qui veulent juste profiter du plein air. Ici, on a la possibilité de faire les deux, dit le directeur des programmes sportifs de la Fondation. On a une belle collaboration avec les Amis des Sentiers de Bromont qui rendent ça possible. L'organisme qui dessert tout le Québec aimerait élargir son offre de services dans d'autres centres de plein air. On a de l'intérêt du côté de Québec. Il y aurait une possibilité d'avoir des parcours là-bas. Mais ici, on a eu accès à des subventions pour l'achat du matériel. C'est vraiment notre seul frein, l'achat du matériel. Je vous rappelle, on l'a dit tantôt, qu'un vélo comme ça, ça coûte environ 30 000 $. En attendant, le programme prend de l'ampleur à Bromont. On a même pu ajouter quelques dates à la fin octobre avec le beau temps qui se prolonge. Donc, c'est peut-être une activité pour certains de nos auditeurs pour l'année prochaine d'aller faire du vélo de montagne dans la région de Bromont. On voit dans la petite vidéo qu'avant de se lancer dans les sentiers en montagne, il y a une période d'acclimatation qui est sur du gazon. Et on voit notre ami Kevin, entre autres, qui il y a une petite descente qui devient très, très énervante tout d'un coup. Alors, donc, sensation sûre et beaucoup de plaisir, ça c'est certain. Alors, ça se passe à Bromont, en vélo électrique de montagne, puis qu'on peut adapter pour toutes sortes de handicaps.
Histoire vécue, racontée par Kevin Breton sur le site de Radio-Canada, ça a été publié le 24 octobre. Merci, Yvan.
Cogne.
Karim Ouellet, rien ne sert de courir.
Des brèves avec Monique et Yvan. Monique, après le mois de novembre déprimant, les lundis stressants.
Oui. Exactement. Alors, est-ce que le stress du lundi avec le temps, avec l'âge, l'expérience, ça s'efface? Eh bien non, Hélène. Et ça commence à l'école pour ne plus s'arrêter et on nous dit même les retraités y restent sujets. Bon, je sais pas. Et ce stress du lundi laisse des traces. Il y a une étude qui a été menée auprès de 3500 Anglais de plus de 50 ans qui montre des taux de cortisol 23% plus élevés dans les échantillons de cheveux de ceux qui se sentent tendus ce jour-là. Alors, le cortisol, on se rappelle, Hélène, c'est l'hormone du stress.
Oui.
Alors, en cause, selon les chercheurs, c'est un dérèglement de la réponse au stress dû aux représentations culturelles. Le lundi, donc, il s'est inscrit en nous pour toujours.
Alors, c'est pas « Thanks God it's Monday », c'est « Thanks God it's Friday ».
Yes. C'est « Oh mon Dieu, demain c'est lundi ».
Oui. Alors, souvent, le stress commence le dimanche vers 17-18 heures. Là.
Oui, c'est ouais. ça. Ou mais à l'heure du midi, si on pense à nos tâches du lundi.
Oui. Alors, oui, Yvan?
Dans les dernières années de ma carrière de travailleur, il y a un ami qui m'avait initié à le rite du martini à 18 heures le dimanche soir. Et j'ai gardé le rite depuis ce temps-là. Et les dernières années, le blues était beaucoup moins là, vraiment.
Alors, finalement, vous geliez un peu votre réalité.
On fêtait la fin de la fin de semaine.
OK, on peut le voir comme ça. Alors, oui. Continuez donc à parler très cher.
Oui, bien sûr. C'est dans l'hebdo info de l'Association des sports pour aveugles du Montréal métropolitain. D'ailleurs, les gens des associations ont toujours un humour particulier qui me surprend tout le temps, et vous allez voir dans celle-là. On parle qu'il est dans une semaine, vendredi de la semaine prochaine, il est encore temps de vous procurer votre laissez-passer pour notre événement bénéfice, mettant en vedette Marie-Denise Pelletier au studio TD, situé au cœur du quartier des spectacles, vendredi le 14 novembre à 20h. Il s'agit de la 7e édition de ce rendez-vous incontournable qui soutient directement notre mission d'accessibilité et d'inclusion par le sport. Le laissez-passer est maintenant en vente au coût de 100 $ et il y a un reçu de charité de 65 $ qui sera émis pour chaque laissez-passer acheté. Et on raconte les bénéfices de ce financement-là. Mais ce qui m'a fait sourire et penser à mes amis de l'association, ça dit, n'hésitez pas à partager cette invitation dans votre entourage. Ensemble, faisons de cette édition un véritable succès. Au plaisir de vous y voir. Et évidemment, c'est l'équipe de l'Association des sports pour aveugles.
Oui. On fait souvent ce genre de blagues-là.
Oui.
Et Monique, le changement d'heure est-il vraiment mauvais pour la santé?
Qu'en pensez-vous, Hélène?
Ben, moi, je dirais que non. J'aime bien dormir une heure de plus.
Et ben, vous avez tort.
Ah,
alors
ouais.
Oui, c'est légèrement mauvais pour la santé. Voici l'explication. Il y a eu une analyse méticuleuse des données de santé en fonction du niveau d'ensoleillement de chaque État des États-Unis. Et ça prouve justement que c'est mauvais pour la santé. Obésité, AVC diminuerait légèrement si on conservait la même heure toute l'année et un peu plus nettement si on optait pour l'heure d'hiver plutôt que l'heure d'été. Alors,
okay.
Voilà.
Alors, l'heure d'hiver qui est l'heure normale de l'Est.
Oui, ce qu'on vit actuellement.
Oui. Et puis, Yvan, de quoi vous allez nous parler maintenant?
De Mémo Québec,
oui.
Qui est la Fondation Moelle Épinière et Motricité Québec. Ils organisent un grand encan virtuel visant à recueillir des fonds pour la Fondation. Les dons aident chaque année de nombreuses personnes lésées médulaires ou en situation de handicap moteur à améliorer leurs conditions de vie. D'ailleurs, mon article d'aujourd'hui pourrait aller dans ce sens-là. Pendant un mois, vous pourrez miser sur de superbes lots incluant des nuitées à l'hôtel, billets de saison de ski, souper au restaurant, spectacle et bien plus encore. Derrière chaque don à la Fondation Mémo Québec, il y a une personne qui, grâce à votre générosité, peut continuer à écrire son histoire. Et je vais juste, la page s'en vient, faire une brève description des lots. Il y a un forfait sorti à Québec. Il y a une paire de billets de ski dans les Chaudières-Appalaches. Un abonnement de ski au même endroit à Adstock en Chaudière-Appalaches. Un forfait plein air à Québec. Forfait sorti en famille à Québec et Chaudière-Appalaches. On voit que c'est dans un coin particulier. Forfait Expo Rail, musée ferroviaire, pizza Salvatore, défi évasion, etc. Donc, il y en a vraiment pour tous les goûts. Alors, allez jeter un coup d'œil de ce côté-là. Puis, ça permet à des personnes gravement blessées de pouvoir avoir accès à des activités vraiment intéressantes.
Mm-hmm. Donnez-nous le site.
C'est sur le site...
De Mémo Québec?
Oui, c'est ça. Là, j'avais changé la page. Donc, oui, mémoquébec.ca.
Merci. Et on termine avec une capsule linguistique, Monique. À cet effet ou à ce propos, on dirait que les deux se disent, ça dépend du contexte.
En fait, il ne faut pas les confondre.
Non.
À cet effet, ça veut dire à cette fin, dans ce but, dans cette intention. Par exemple, postez votre réponse dans l'enveloppe incluse à cet effet. La locution à ce propos signifie à ce sujet. Donc, si on entend... on écoute à cet effet Monsieur X, ben, on aurait dû dire on écoute à ce propos Monsieur X. Ça a été entendu le 29 octobre 2021 à Radio-Canada.
Et moi, j'ai entendu ce matin et depuis quelques matins, j'entends souvent l'expression à la fin.
Oui, je m'en occupe pour la semaine prochaine, Hélène.
On compte sur vous, très chère Monique. Alors, merci beaucoup à vous deux. Merci Yvan Deslauriers, merci Monique Quirois qui est passée du bon temps cette journée du 6 novembre 2025. À la semaine prochaine.
À la semaine prochaine, au revoir.
Au revoir.
Si vous avez envie d'entendre du piano, c'est tellement un instrument formidable. Eh bien, cette semaine, à la salle Bourgie, on rend hommage au piano Steinway qui a été acquis en 2023. Une célébration du piano sous toutes ses formes, de Bach à Debussy. Allez faire un tour sur le site de la salle Bourgie. Et le 6 novembre, c'est aujourd'hui, on rend hommage à Pierre Boulez, 100 ans après sa naissance avec une première canadienne. C'est le pianiste Florent Beaufort qui est invité. Les violons du roi, le 7 novembre, qui vont accueillir le pianiste de renommée internationale Inon Barnatan, dis-je bien, aux côtés du chef Bernard Labadie. Et le 9, il y aura du Schubert, du Ravel, du Debussy à quatre mains pour conclure cette semaine en beauté, une semaine qui fera résonner les mille visages du piano entre tradition et modernité. Et donc, si cela vous inspire, ça se passe à la salle Bourgie. C'est la belle salle du Musée des beaux-arts de Montréal. Restez là pour la chronique Parasport en compagnie de l'ami Dominique Tremblay.
Vous écoutez au quotidien avec Hélène Denis.
Et on le retrouve avec grand plaisir, Dominique Tremblay. Bonjour Dominique.
Bonjour Hélène, comment allez-vous aujourd'hui?
Ça va, merci. Gros menu, on commence avec les Jeux Panaméricains de la jeunesse.
Oui, c'est ça, c'est une compétition qui se déroule présentement à Santiago, au Chili. Les cérémonies de clôture auront lieu le 9 novembre. C'est des compétitions un peu comme les Jeux parapanaméricains pour seniors ou les Jeux paralympiques, mais c'est pour la jeunesse début de 13 ans jusqu'à 22, 23 ans, dépendant des sports. Le Canada est représenté par 38 athlètes dans 5 sports différents. Le basketball en fauteuil roulant, le goalball, la paranatation, le boccia et le tennis de table. Les compétitions ont débuté le 31 octobre dernier, donc la journée de l'Halloween. Donc les athlètes canadiens étaient tous habillés avec leur uniforme de cérémonie d'ouverture, dont un beau déguisement pour l'Halloween. Et donc, les compétitions vont bon train. Le Canada a déjà remporté 5 médailles, dont une médaille d'or au basketball féminin 3 contre 3. L'équipe masculine avec l'athlète Samuel De Vries de Gatineau ont remporté la médaille de bronze. C'est l'équipe de goalball masculin. Et le Canada a aussi gagné une médaille en tennis de table et aussi en goalball féminin. Plus tard, au cours de la semaine, il va y avoir des finales en natation et aussi en goalball. Et le Canada, pas en goalball, mais en boccia, pardon. Et le Canada devrait s'illustrer dans ces deux sports-là.
Et puis, vous nous parlez maintenant des Jeux paralympiques d'hiver. Ça s'en vient, là, Milan-Cortina. Sandrine Hamel qui s'y prépare.
Oui, c'est ça. Donc, les Jeux paralympiques de Cortina vont avoir lieu au mois de mars en Italie. Sandrine Hamel, va représenter le Canada en planche à neige. Ça sera ses troisièmes Jeux paralympiques. Elle était en 2018 à Pékin et en 2022 à Pyeongchang. Ses meilleurs résultats aux Jeux paralympiques étaient une cinquième position en 2018. Elle espère pour les Jeux de Milan de vraiment apprécier son expérience puisqu'en 2018, elle était surtout très nerveuse de participer à ses premiers Jeux paralympiques. Donc, la nervosité avait le meilleur sur ses performances.
Oui, si on peut dire ça comme ça.
Oui, c'est ça. Et en 2022, elle était tellement concentrée sur les résultats. Elle voulait vraiment, vraiment gagner des médailles puisque les Jeux champions du monde, juste avant, elle était montée sur la deuxième et troisième marche du podium. Mais comme elle était trop concentrée sur le résultat final, elle n'a pas pu apprécier son expérience.
Ouais.
Donc, en Italie, c'est vraiment profiter de chaque jour des Jeux paralympiques au même titre que des Jeux olympiques. C'est quelque chose de vraiment spécial. Ça arrive pas souvent. Elle est chanceuse. Ça va être sa troisième opportunité. Il faut profiter de chacune des secondes et le faire le mieux possible. Et peut-être qu'elle aura une chance de monter sur le podium.
Toute une préparation psychologique, hein, en plus d'une préparation physique.
Oui, c'est vraiment ce qui fait la différence souvent entre les athlètes, parce qu'au niveau physique, ils sont vraiment égaux un à un, mais ça se passe dans la tête et la personne qui est le mieux préparée est souvent celle qui va monter sur la plus haute marche du podium.
Sinon, Dominique, vous nous parlez des sports paralympiques représentés lors du 52e Gala Sport Québec.
Oui, le gala a été présenté hier à Québec. Donc, c'est l'événement à honorer les entraîneurs, les officiels, les athlètes, les bénévoles et aussi que les fédérations ou encore les événements sportifs qui sont particulièrement illustrés sur la scène provinciale, nationale et internationale au cours de la dernière année. L'équipe québécoise féminine de basketball en fauteuil roulant a remporté le prix de l'équipe de l'année au niveau national. C'est grâce à leur performance lors du championnat canadien au début de l'année. L'équipe de para-hockey québécoise était aussi en nomination dans la même catégorie. Et d'autres personnes qui sont illustrées dans le parasport, Jolie-Anne Lévesque, arbitre en basketball, en fauteuil roulant et de rugby en fauteuil roulant, était en nomination dans la catégorie officielle niveau québécois et canadien. Et finalement, l'Association québécoise des sports pour paralytiques cérébraux était en nomination pour l'organisme de l'année. Donc, beau travail à tous ces gens.
Absolument. Et vous terminez avec une triste nouvelle, la para-athlète Raphaël Tousignan qui a annoncé cette nouvelle à propos de sa santé.
C'est ça, mardi dernier, sur son compte Instagram, elle a indiqué qu'elle souffrait d'un cancer du sein. C'est malheureux pour la jeune femme de 23 ans, qui est probablement l'une des meilleures joueuses de para-hockey, sûrement au Canada, sinon au monde. Elle avait l'intention de faire partie de l'équipe masculine ou mixte pour les Jeux de Milan. J'espère qu'elle va pouvoir réaliser son rêve. Elle n'a pas dit en ce moment, là, c'est trop récent, cette nouvelle-là. Donc, qu'est-ce que ça va faire pour le futur et sa préparation? Mais j'espère qu'elle va réaliser son rêve puisqu'elle a été nommée la première Canadienne sur l'équipe masculine de para-hockey lors de championnat du monde. Donc, j'espère qu'elle va réaliser son rêve pour les Jeux paralympiques et on lui souhaite bonne chance.
Absolument, on lui souhaite la guérison et aussi de participer et de concrétiser son rêve. Merci, oui. Dominique Tremblay. On se retrouve, je l'espère, la semaine prochaine.
La semaine prochaine. Au revoir.
À bientôt.
Jérôme Minière, deux choses à la fois.
La première édition de La Mèche courte, le Festival international jeune public, s'ouvre le 7 novembre. C'est très bientôt, c'est demain. 12 spectacles pour les 3 à 17 ans au menu, un menu riche. Et pour en savoir davantage, je reçois Sylvain Cornuau, qui est co-directeur général et artistique de ce festival. Bonjour Sylvain.
Bonjour, merci de me recevoir.
Bien, merci d'être avec nous. D'abord, quelle a été la bougie d'allumage à la base de La Mèche courte?
Alors, je co-dirige le festival avec Mélanie Dumont, que je connais depuis plusieurs années. Puis, Nous avions ce rêve qui est lentement arrivé à maturité de créer un événement pluridisciplinaire à Montréal pour l'enfance et la jeunesse. Et il s'est trouvé en fait qu'en 2023, suite à la disparition du festival Les Coups de Théâtre, les trois paliers de gouvernement, donc Patrimoine canadien, le Conseil des arts et des lettres du Québec et le Conseil des arts de Montréal, ont lancé un appel à projet pour recréer un nouveau festival. Donc, nous avons répondu à cet appel et on a eu le bonheur d'être sélectionnés.
Bien, bravo.
Merci.
Et le nom du festival, La Mèche Courte, c'est quand même un nom intriguant et imagé. Qu'est-ce qui symbolise pour vous?
Alors, pour nous, en fait, quand on a créé ce festival, on souhaitait un nom qui est un particularisme québécois, local. On ne voulait pas être juste le Festival international de théâtre Jeune Public de Montréal, mm-hmm. mettons. Et puis, la mèche courte, pour nous, c'est polysémique. Donc, la mèche courte, c'est d'être vivant, c'est d'avoir un tempérament ardent, un tempérament de feu.
Parce que ça peut être négatif aussi. Quelqu'un qui a la mèche courte, oui, c'est quelqu'un qui est susceptible.
Oui, alors nous, on veut le réhabiliter. De susceptible, on passe à vivant, quelqu'un qui a envie de s'exprimer, qui a envie de prendre la place. Il y a aussi la mèche de dynamite. Donc, on est explosif, un festival, on est quelques jours dans l'année, hop, on arrive à Montréal. Donc, il y a ce côté un peu effervescent.
Oui, pétillant.
Pétillant. Ouais. Et puis, il y a des jeunes enfants qui nous ont dit que ça leur rappelait aussi la coupe de cheveux, puis que ça leur plaisait beaucoup.
Oui.
Alors, voilà, on est tout ça à la fois, un petit peu punk, un petit peu innovant, et puis... polysémique et québécois, surtout ancré ici dans cette réalité.
Oui. Le festival présente plusieurs spectacles. Je le disais tantôt, la programmation est riche. Pour une première édition, là, on est assez impressionnés des artistes qui viennent d'ici, mais aussi de la Belgique, de la France, du Chili, de la Suisse et d'ailleurs. Comment vous avez choisi les spectacles?
Alors, c'est sûr que quand on a pensé ce festival, on avait déjà, Mélanie et moi, une sorte de géographie des artistes, en fait, avec lesquels on avait envie de travailler.
Est-ce que vous veniez vous-même de la jeunesse, des spectacles jeunesse, alors, Mélanie et vous?
Oui, ben, moi, j'ai travaillé pendant 10 ans pour une compagnie qui s'appelle Le Carrousel avant de faire le saut à Ottawa, où je travaillais au Conseil des arts du Canada, où je m'occupais des relations internationales. Et Mélanie était programmatrice enfance-jeunesse au Centre national des arts à Ottawa, au Théâtre français.
Une bonne expérience.
Et donc, voilà. Donc, on avait des artistes avec qui on avait envie de travailler. On s'est déplacé aussi un petit peu dans différents endroits à travers le monde et on a composé, en fait, avec les salles qu'on avait, avec les artistes qui étaient disponibles, on a composé cette programmation qui est quand même teintée de plusieurs thématiques. Et une des thématiques qu'on avait en tête, c'est de se poser la question, quelle est la place des enfants dans notre ville, dans notre société et au théâtre, dans un festival? Et là, on a 3 spectacles où les enfants sont au plateau. Donc, le spectacle d'ouverture, il y a 10 jeunes flamands qui ont maintenant entre 7 et 14 ans, qui dansent dans une chorégraphie de la grande chorégraphe flamande Lisbeth Gruez. On a Paysage en filiation qu'on présente au Théâtre des Écuries où il y a 8 mères et 8 enfants sur scène.
Ah oui.
Et on a Refaire la Marguerite à la chapelle où c'est la famille de l'eau du bain.
Oui,
donc là,
j'ai fait justement une entrevue avec la famille, mais pas toute la famille, mais Anne-Marie Ouellette qui fait partie de cette tribu-là.
Tout à fait.
Et le spectacle est présenté en ce moment, je crois, du 8 au 15 novembre.
Ça commence la première et samedi après-midi. Il reste quelques places, pas beaucoup.
À la chapelle Scène contemporaine. Et il y a des spectacles un petit peu partout, dans différentes salles de spectacle, pas seulement qu'à la chapelle.
C'est ça. Alors, on voulait créer une géographie un peu inusitée du jeune public à travers Montréal. Donc, on est dans 8 lieux. On a une petite carte dans notre brochure que les spectateurs pourront voir. Donc, on est notre lieu de diffusion principal, c'est la maison. Maison Théâtre, que tout le monde connaît bien.
Oui, sur Ontario.
Sur Ontario. On est aussi aux Écuries, on est à l'Illusion, on est à la Chapelle, on est à l'Espace Libre, on est au Conservatoire, on est à Tangente, dans l'Agora de la Danse. Et puis, on est également dans l'espace public. Et on est aussi lieu inusité au Bain Mathieu, un ancien bain public près du métro Frontenac.
Ah oui. Et puis, ce sont souvent des spectacles hybrides ou qui marient différentes disciplines. On pense à la danse, au théâtre, marionnettes, art urbain. Est-ce que ça faisait partie de vos critères de sélection?
Oui, ben on avait envie d'offrir aux jeunes d'ici, de Montréal, des spectacles en fait qu'ils ont peut-être moins l'habitude de voir et de mettre de l'avant des démarches d'artistes en fait qui croisent les disciplines ou qui sont des fois dans une certaine hybridité. Donc nous, on est vraiment un festival de théâtre, de danse et de performance, mais on aime bien dire que les disciplines sont élastiques. Donc nous, on aime bien tout ce qui sort un petit peu de la
marge.
De la marge. Voilà.
Oui, oui. Et la programmation comprend du théâtre d'images. c'est quoi le théâtre d'images?
Alors, je pense que vous faites référence à la compagnie Les Petites Géométries qui vient de France. Donc, en fait, il n'y a pas de parole. C'est tout un univers, en fait, qui est créé par les deux interprètes à travers le dessin. Donc, on est dans un théâtre d'images.
Parce que l'image qu'on voit, là, c'est deux personnages avec une boîte sur la tête.
Et en fait, de cette boîte, en fait, ils dessinent en fait toute l'histoire sur cette boîte. Oh. Il y a quelque chose d'assez magique parce qu'on se demande comment elles font pour arriver à créer tous ces paysages avec une boîte sur la tête.
C'est magique.
C'est un spectacle magique, oui.
Alors, est-ce que c'est une façon d'ouvrir la scène à des expériences plus inclusives, plus universelles?
Oui, tout à fait. Et puis, c'est une manière aussi de croiser les esthétiques, c'est-à-dire qu'on a six compagnies qui viennent du Québec, puis on a six compagnies qui viennent de l'étranger. Et c'est intéressant pour un parcours de spectateurice de pouvoir voir en fait ce qui se fait à l'étranger, ce qui se fait ici, trouver peut-être des liens aussi entre ces choses. Mm-hmm.
Voilà. Il va y avoir des moments d'échange aussi.
Il va y avoir des moments d'échange avec les artistes.
Des ateliers.
Des ateliers, tout à fait. On a aussi tout un volet scolaire. On a des ateliers préparatoires en classe. On a 14 représentations scolaires. On a une très belle collaboration avec les écoles de Montréal. Donc ça, c'est formidable.
Au moins, eux, ils se promènent en autobus jaune.
Alors oui, y en a qui prennent des navettes STM, donc il a fallu s'organiser, mais on s'organise.
Oui, il faut s'organiser, on n'a pas le choix. Hein.
Oui.
Mais il reste encore des billets là, pour les représentations.
Il reste des billets, et puis tous ceux qui veulent venir voir des spectacles, allez sur le site internet. Certains spectacles sont complets, d'autres non, soyez curieux, et puis arrivez toujours à l'avance. À cause de la grève, mais aussi parce qu'on a des activités dans les halls des théâtres pour les enfants. Il y a du coloriage, il y a des dessins et autres. On a des bénévoles.
Vous ouvrez à quelle heure?
Ça dépend. On ouvre une heure avant la représentation. D'habitude,
d'accord.
Pour une représentation à 15h, les gens peuvent venir à 14h à partir de là. Puis comme il faut bien planifier ces trajets en ce moment.
Oui, partez tôt.
Partez tôt.
Mais est-ce que tous les spectacles ont lieu à 15h?
Non. On a des spectacles, en fait. En fin de semaine, un spectateur, une spectatrice pourrait voir 3 ou 4 spectacles. Le premier, souvent à 11h le matin, il y en a à 13h30, 16h et jusqu'à 18h le soir, voire 19h.
Qui est comme un festival de cinéma, là, on peut voir des films du matin au soir, ça peut
tout
se faire aussi au théâtre.
Oui. Puis on a d'ailleurs plusieurs personnes en fait, qui viennent avec leurs enfants pour carrément, ils s'installent pour la journée à Montréal, ils voient 3 spectacles.
Quelle belle, belle initiative, belle journée. Et vous parliez tantôt d'un spectacle qui met en vedette des enfants et aussi des enfants avec leur mère. Est-ce qu'il y a beaucoup d'autres spectacles qui mettent en scène des plus jeunes?
Au Québec,
ici, dans le festival?
Donc, dans le festival, il y en a 3. Donc,
il y a 3.
Refaire la Marguerite, Paysage en filiation et Wasco. C'est ces 3 spectacles. Puis, c'est intéressant parce que ça nous permet, nous, de réfléchir, en fait, à cette place des enfants dans un festival qui leur est consacré. Donc, la place, elle peut être au plateau, mais elle peut être ailleurs. Puis, je pense que dans les prochaines années, on va vraiment développer cet aspect, en fait, de redonner de la gentilité aux enfants et aux jeunes.
De la gentilité.
Donc, de l'emprise, de la action. On a des jeunes bénévoles. On a un bénévole de 12 ans, par exemple.
Ouais.
Donc ça aussi, c'est une place qui peut y avoir dans un festival. Puis on va continuer à développer ça. Je pense que c'est vraiment important qu'en tant que société, on se pose la question de quelle est la place qu'on donne, quelle est la place qu'on partage, quelle est la place qu'on développe avec nos plus jeunes dans une ville.
Mm-hmm.
Ils ne sont pas que dans les ruelles, les enfants. Ils devraient être partout.
Oui, on les aime, les enfants. Ils sont vivants et ils nous donnent plein de comment dire, leçons.
Puis c'est
leçons
pour eux qu'on
vie.
Fait ça,
oui.
En fait, vraiment.
Et puis, j'ai lu que c'était pour les 3 à 17 ans, mais si on a, je ne sais pas, 2 ans ou si on a 52 ans, est-ce qu'on est admis?
Ben, c'est sûr que quand on dit à partir de 3 ans, c'est que les spectacles qu'on a choisis, en fait, c'est important de respecter le groupe d'âge parce qu'en fait, on sait que par rapport au développement émotif de l'enfant, c'est un spectacle qui lui est adressé ou non. Donc, on n'a pas de spectacle pour les moins de 3 ans. Par contre, il n'y a pas de limite d'âge.
À partir de 3 ans.
C'est à partir de 3 ans. Alors après, tous les spectacles ne s'adressent pas à tous les enfants à partir de 3 ans. On a des spectacles aussi pour adolescents. On a un spectacle Black qui parle de la violence faite au corps noir, du racisme systémique dans la société, qui lui est à partir de 14 ans. Un spectacle
pour les
exceptionnel
adolescents.
Qui est présenté dans la piscine du Bain Mathieu. Ça, c'est pour les adolescents. Mais après, il n'y a pas d'âge. D'ailleurs, on a des personnes personnes âgées qui viennent avec ou sans enfants. Il y a tellement une liberté dans le théâtre jeune public, dans les formes, dans ce qui est dit, que je pense que ça s'adresse à tout le monde.
Tout le monde est bienvenu et tout le monde sera bien accueilli. Alors, La Mèche Courte, première édition du Festival international jeune public, et j'en parlais avec son co-directeur général et artistique, il s'appelle Sylvain Cornuau. Merci beaucoup. Bon premier festival.
Merci
bravo,
beaucoup.
Bravo pour
Merci.
Cette super initiative.
Bonne journée.
Comme un enfant aux yeux de lumière qui voit passer au loin les oiseaux,
comme l'oiseau bleu survolant la terre, vois comme le monde est beau.
Beau le bateau dansant sur les vagues, ivre de vie, d'amour et de vent. Belle la chanson naissante des vagues, abandonnée au sable blanc. Blanc l'innocent, le sang du poète qui en chantant invente l'amour pour que la vie s'habille de fête et que la nuit se change en jour. Jour d'une vie où l'aube se lève pour réveiller la ville aux yeux lourds, où les matins effeuillent les rêves pour nous donner un monde d'amour. L'amour c'est toi, l'amour c'est moi, l'oiseau c'est toi, l'enfant c'est moi. Moi je ne suis qu'une fille de
United Kids ou Kids United, l'oiseau et l'enfant.
Inspiré de notre entrevue avec le co-directeur général et artistique de La Mèche Courte qui se tient à partir du 7 novembre. Et si vous voulez avoir tous les détails, c'est lamèchecourte.ca. Disable Habitus, une exposition multimédia qui présente le handicap comme une expression précieuse et essentielle de la biodiversité. Créée par Emery Vanderburg, une artiste en situation de handicap, les œuvres s'opposent aux récits qui présentent le handicap comme une tragédie, une déficience ou un échec. En fait, ces œuvres présentent l'incarnation du handicap comme un lieu de créativité, d'ingéniosité et de survie. Ces œuvres représentant des chorégraphies animées, des fleurs mutantes, sont des provocations. Pourquoi sommes-nous émerveillés par les irrégularités biologiques des plantes, mais mal à l'aise face au corps handicapé? Cet espace vous invite à considérer le handicap non pas comme un diagnostic, mais comme une diversité, une force génératrice, une lentille critique, une partie virale de notre survie écologique. Emery Vanderburg est une artiste en situation de handicap qui subit les conséquences d'une mutation génétique et du handicap physique qui en résulte. Elle utilise l'animation, la modélisation 3D, la sculpture et le cinéma pour révéler l'intersection entre la science et la pathologisation de la différence Et pour conclure, et pour produire, c'est-à-dire une représentation nuancée du handicap, son travail considère les archives, le mouvement et l'itération comme moyen potentiel de libération. Alors, si cette exposition vous intéresse, le vernissage a lieu aujourd'hui même. Et ça se passe à 18h à la galerie McClure. Avez-vous l'adresse, cher Mathieu?
C'est au 350 avenue Victoria dans Westmount. Donc.
D'accord. À Westmount, la galerie McClure, ça s'écrit McClure. Et le vernissage a lieu aujourd'hui même. On reste en art visuel. Parlez-moi d'amour. À partir du 7 novembre et ce jusqu'au 27 novembre, les impatients présentent la 27e édition de l'exposition en camp Parlez-moi d'amour au Grand Atelier qui se situe au 5800 rue Saint-Denis, bureau 702, inauguré le 1er octobre dernier. L'exposition va rassembler plus de 300 œuvres mises à l'encan. Création d'artistes professionnels, dont de collectionneurs et collectionneuses, ainsi que diverses œuvres issues des ateliers de l'organisme. Le coup d'envoi officiel de l'événement sera donné à l'occasion d'un vernissage demain à 17h30, animé par la porte-parole des impatients qu'on a reçue récemment, la productrice et animatrice Sophie Fouron, les artistes de renom Rosalie Gamache et Richard Max Tremblay, marraine et parrain de cette nouvelle édition, seront aussi présents. Alors, on vous invite à y participer nombreux. Début de l'encan silencieux le 7 novembre à 8h le matin, 17h30 le vernissage. Et puis, on aura l'occasion d'y revenir. L'exposition se poursuit jusqu'au 27 novembre. Ici Hélène Denis, merci beaucoup d'avoir été à l'écoute. Merci Mathieu Tessier à la mise en onde. On va se retrouver mardi. C'est Denis Martin Chabot qui sera avec vous dès lundi. Ne le manquez pas. À bientôt.